Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons de pulsions photographiques, juste avant de faire le portrait de Renaud Montfourny. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. L'organisation État islamique perd encore un peu plus de terrain. En Libye, les combats font rage à Sirte. Daesh a été chassé hier de son centre de commandement, précision de Valérie Crova. Une autre bataille d'envergure se déroule à Alep, en Syrie, où les Russes ont promis, à partir d'aujourd'hui, une trêve humanitaire de 3 heures chaque matin. C'est insuffisant pour les Nations Unies qui exigent 48 heures chaque semaine. Nous ferons le point avec Willy Moreau. Nous irons également dans ce journal en Turquie et en Ukraine. Et puis en France, au rayon politique, une lecture de ce mois d'août dans une interview à Valeurs Actuelles. Nicolas Sarkozy rôde sa campagne à venir. Il promeut la force, décryptage d'Ezekiel Fernandez à la fin de ce journal. Peut-on imaginer la fin de Daesh en Libye? L'organisation État islamique a perdu un peu plus de terrain dans son dernier fief, la ville côtière de Sirte, la ville de naissance de Kadhafi. Hier, les forces pro-gouvernementales ont conquis le QG des djihadistes installés dans le vaste centre de conférence Ouagadougou. Mais il reste, Valérie Crova, encore plusieurs secteurs de la ville à libérer.
Effectivement, les combattants de Daesh ont eu le temps de s'implanter depuis qu'ils se sont emparés de Sirte en juin 2015. Selon le Pentagone, environ 1000 combattants se trouveraient encore dans la ville, alors que 75% de ses 120 000 habitants ont fui après la chute du régime de Kadhafi. Les djihadistes ont miné plusieurs secteurs. Ils ont encore le contrôle de quartiers résidentiels où sont positionnés des snipers, ce qui rend d'autant plus difficile l'avancée des forces ralliées au gouvernement d'accord national, le GNA, qui sont entrées dans la ville en mai dernier. La bataille de Sirte a déjà coûté la vie à 300 hommes qui combattent au sein des forces pro-gouvernementale. L'État islamique a eu recours à plusieurs reprises aux attaques suicides, ce qui a incité début août les forces du GNA à faire appel à l'aviation américaine. Et depuis, les avions de combat américains ont effectué une trentaine de frappes ciblées sur des emplacements tenus par les djihadistes. Alors, comme Raqqa ou Mossoul, Sirte a valeur de symbole. La ville est la plus importante base de l'État islamique en dehors de Syrie et d'Irak. Qui réussira à la libérer du joug de Daesh en tirera des profits dans une Libye en proie au chaos depuis 2011. Le gouvernement d'Union nationale de Fayez Sarraj, adoubé par les Nations Unies, a tout intérêt à ce que ses forces parviennent à libérer l'ancien bastion de Kadhafi pour asseoir son autorité, sans oublier que Sirte est située à proximité du croissant pétrolier situé sur la côte Est, là où se trouvent les raffineries qui sont vitales pour relancer l'économie libyenne.
Valérie Crova, partons à présent en Syrie. C'est dans la deuxième ville du pays, au nord, Alep, que se concentrent les combats les plus important, chaque camp jetant toutes ses forces dans cette bataille qui dure maintenant depuis 4 ans et qui s'annonce longue encore sans doute, et où l'un des belligérants, les forces russes, annonçait hier suspendre ses frappes pour 3 heures aujourd'hui, depuis midi, heure française. Moscou précise que ce sera une trêve quotidienne, chaque matin, Willy Moreau.
Une trêve largement insuffisante pour les Nations Unies. L'ONU réclame d'ailleurs au moins 2 jours de trêve par semaine. C'est le temps nécessaire pour faire parvenir les convois humanitaires dans la ville. D'abord, les routes sont devenues quasiment impraticables et donc difficiles d'arriver sur place. Ensuite, Alep reste une grande ville, plus d'1,5 million d'habitants, 300 000 à l'est côté rebelle, et plus d'1 million à l'ouest, zone contrôlée par le régime de Bachar al-Assad. Enfin, Baspa Konmani, membre de l'équipe de négociation de l'opposition syrienne à Genève, explique que les renforts humanitaires ont beaucoup à faire car, sur place, la situation est tout simplement
dramatique puisqu'il n'y a plus d'eau potable. Donc la population tire de l'eau de puits qui sont eux-mêmes contaminés. Tout le monde, et en particulier les enfants, qui constituent un tiers de cette population assiégée. Les enfants sont exposés à toutes sortes de maladies. Il fait extrêmement chaud, c'est donc très favorable à la prolifération de tous les virus. Et donc, la situation humanitaire est extrêmement difficile de ce point de vue-là, surtout sur un plan sanitaire.
D'autant que les hôpitaux, surtout à l'Est, manquent de médicaments. La situation, en plus, ne devrait pas s'arranger. Les combats, vous l'avez dit, continuent. Ce matin encore, une heure après la trêve, les combats se poursuivaient selon des témoins. Hier soir, des civils ont rapporté à des agences de presse l'explosion de bombes barils, plus une attaque au gaz. 4 personnes seraient mortes d'une intoxication. Finalement, si la situation s'enlise, c'est aussi parce que le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé sur l'envoi d'aide humanitaire. La France et les États-Unis sont pour un envoi immédiat, mais la Russie, proche du pouvoir de Bachar al-Assad, est réticente. Pour de nombreux experts, la proposition de cette trêve de 3 heures seulement montre bien la prise de position de Kremlin.
Willy Moreau, la Russie se félicite ce midi de frappes quand elle les cesse sur Alep. On en parlait à l'instant. Elle se félicite ce midi de raids visant, toujours en Syrie directement, Raqqa, le fief de l'organisation État islamique. Au moins 10 frappes sur cette ville et ses environs qui auraient fait au moins 30 victimes et 70 blessés. Des élections présidentielles très incertaines en Zambie, pays d'Afrique australe, qui votait il y a seulement un an et demi. Après le décès de son président, malade, à l'époque, Edgar Lungu l'avait emporté avec moins de 28 000 voix d'avance sur Hakainde Hichilema. Et s'il y a 9 candidats en lice aujourd'hui, c'est bien encore entre ces deux hommes que ce scrutin devrait se jouer. Premier résultat attendu dans la nuit de vendredi à samedi. Il est l'ennemi du président turc Recep Tayyip Erdogan, encore un peu plus dans le viseur depuis le coup d'état manqué de la mi-juillet, dont il serait, selon Ankara, le principal responsable. Le prédicateur Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis depuis maintenant 17 ans, publie une tribune dans les colonnes du journal Le Monde, deux jours seulement après la longue interview accordée au même quotidien français par le président turc Eric Bilgelà.
Oui, la tribune de Fethullah Gulen que publie ce jeudi le quotidien est à la fois un démenti et une accusation. Démenti de toute participation de son mouvement et de lui-même en particulier à la tentative de coup d'état du 15 juillet et accusation visant directement Recep Tayyip Erdogan, à qui le prédicateur réfugié en Pennsylvanie depuis 1999, prête une volonté de mise en place d'un régime civil autocratique en Turquie, et ce par le truchement des larges purges qui ont débuté dès après la tentative de coup de force du mois dernier, des purges qui visent surtout les proches du Hizmet, le mouvement de Gulen. Se présentant lui-même comme une victime des coups d'état militaires passés qui ont scandé la vie politique du pays depuis 1960, on en compte jusqu'à 4, et n'ayant jamais professé d'appel à la violence, Gulen reconnaît toutefois que certains des putschistes de juillet ont pu être des proches de son mouvement. Si des militaires qui se disent sympathisants du Hizmet ont trempé dans cette conjuration, écrit-il, je le dis sans aucun état d'âme, ce sont des félons qui ont ébranlé l'unité et l'intégrité du pays, des individus qui ont trahi mon idéal. Personne, poursuit-il, ni moi ni un autre n'étant au-dessus du droit, je souhaite que tous les coupables, quelle que soit leur affiliation, soient condamnés aux peines qu'ils méritent dans le cadre d'un procès équitable. Mais l'imam de Pennsylvanie, considérant que la justice turque est aujourd'hui sous la tutelle du pouvoir, la probabilité, dit-il, d'obtenir un procès équitable est quasi nul et de proposer une alternative. Je demande, écrit-il encore, qu'une commission internationale indépendante mène les investigations sur cette tentative de coup d'État. Si le 10e des accusations dirigées contre moi sont établies, je m'engage à retourner en Turquie et à subir la peine la plus lourde. Difficile de croire que le pouvoir d'Erdogan, engagé dans une véritable chasse aux sorcières contre les gulenistes en Turquie, accédera à sa demande.
Éric Bilgelà, on avait l'habitude que les Ukrainiens qualifient les Russes de terroristes. La donne a changé. Là, c'est Moscou qui accuse Kiev de terrorisme. Les services secrets russes auraient déjoué des attentats préparés par l'Ukraine en Crimée. Moscou précise ce matin que la sécurité va donc y être renforcée et que dans ce contexte, la réunion prévue entre Poutine et son homologue ukrainien Porochenko, la chancelière allemande et le président français début septembre en marge du G20 en Chine n'aura pas lieu. À Kiev, Sébastien Gobert, on rejette ces accusations.
Ce serait un fantasme d'été du Kremlin. Le président Petro Porochenko a rejeté avec ironie les accusations de la Russie. Après avoir nié pendant 2 ans la présence de troupes russes dans l'est de l'Ukraine, c'est un nouveau pas dans la stupidité et le cynisme, le chef de l'État a continué. Une défiance qui est largement partagée en Ukraine, que ce soit dans les milieux politiques ou les médias et les réseaux sociaux. La Russie a oublié ce que sont le terrorisme et les opérations spéciales, s'emporte le député Mustapha Naïem, en rappelant quelques-unes des manœuvres russes pour envahir la Crimée et entretenir un conflit hybride sanglant dans le Donbass. Experts et observateurs à Kiev font valoir l'absence de preuves qui pourraient avérer que les combats dénoncés par les Russes aient simplement eu lieu. Même l'identité des supposés terroristes ukrainiens est remise en question. Au-delà de l'ironie et du déni, c'est néanmoins l'inquiétude qui domine en Ukraine. Sur les réseaux sociaux, on rappelle que la Russie a pris pour habitude de mener des opérations militaires pendant les Jeux Olympiques, que ce soit en Géorgie en 2008 ou en Crimée en 2014. Les experts militaires ukrainiens ont noté depuis plusieurs jours une concentration de troupes russes inédite dans le nord de la Crimée. Et sur le front de l'Est, les combats sont de plus en plus violents et meurtriers. Les belligérants se rejettent évidemment la faute de l'escalade, mais tout semble réuni pour une nouvelle explosion de violence.
Sébastien Gobert à Kiev, l'ambassadeur américain en Ukraine, estime ce matin qu'il n'y a aucune preuve d'incursion ukrainienne en Crimée. Par le passé, dit-il, la Russie a souvent lancé de fausses accusations envers l'Ukraine pour détourner l'attention de ses propres actions illégales. Après plusieurs attaques terroristes visant l'Allemagne, virage à droite pour le gouvernement Merkel, en baisse dans les sondages d'opinion, le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, présente en ce moment même à Berlin toute une série de mesures destinées à lutter contre la menace terroriste. Il serait question notamment d'une procédure d'expulsion accélérée contre les réfugiés ou les demandeurs d'asile, présentant, je cite, un danger pour la sécurité publique. Autre mesure annoncée à l'instant, on vient de l'apprendre, il évoque, et c'est un débat qu'on a connu en France, une déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. On y reviendra plus longuement dans notre prochaine édition à 18h. Et c'est avec ce ministre de l'Intérieur allemand que son homologue français Bernard Cazeneuve voudrait une initiative européenne puis internationale pour accéder au contenu des communications cryptées. De nouvelles techniques sont désormais accessibles à tous pour chiffrer nos échanges électroniques, comme la messagerie russe Telegram, utilisée par des membres de l'État islamique ou par les auteurs de l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les deux hommes feront leur proposition le 23 août, expliqué ce matin le ministre français à la sortie d'un conseil de défense convoqué à l'Élysée pour faire le point sur la situation sécuritaire du pays, même en période de congé pour l'exécutif. Conseil de défense où il a été question des violents incendies dans le sud du pays, aux portes de Marseille. L'incendie de Rognac-Vitrolles est presque contenu, mais rien n'est joué. 1200 pompiers sont toujours en intervention. Ce feu a détruit plus de 3000 hectares de garrigues. Il a fait 3 blessés par brûlure dans la population, dont un blessé grave. Une vingtaine de pompiers et une dizaine de policiers incommodés par des fumées. Une trentaine d'habitations et quelques bâtiments industriels endommagés. Le trafic sur l'aéroport de Marseille-Provence connaît encore quelques vols retardés ou annulés. Et puis dans l'Hérault, si seulement 200 hectares y ont brûlé, 4 pompiers ont été blessés, dont 3 grièvement, qui demeurent en cette mi-journée en urgence absolue. Un autre départ de feu est signalé ce matin à Montalbat-le-Château dans les Pyrénées-Orientales, où 100 hectares sont menacés. La politique française à présent, avec dès la rentrée la perspective de la primaire à droite, ce sera pour le mois de novembre, et une candidature qui n'est plus un secret, celle de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, qui doit se déclarer avant la date limite du 25 août. Il donne ce matin une interview dans la dernière livraison de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Bonjour Ezequiel Fernandez.
Bonjour.
Vous avez lu pour nous les propos d'un homme qui s'affiche depuis sa villa du Cap-Nègre, où il fixe le cap justement de sa campagne, comme l'avait fait avant lui la semaine dernière François Hollande.
Oui, Nicolas Sarkozy se prévaut de son lien particulier avec les Français, entretenu ces mois derniers sur le terrain, y compris dans les grandes surfaces, lorsqu'il est allé à leur rencontre avec son livre « La France pour la vie » pour asséner un langage de vérité. Et c'est sur le terrain de la guerre contre le terrorisme qu'il se montre le plus offensif, rien d'étonnant. Son vocabulaire sème adroitement des mots-clés qui sont autant de banderilles plantées sur le dos de son adversaire virtuel de gauche, François Hollande. « Je sens la République suffoquée. En 20 mois, il y a eu 237 Français assassinés. Le sont parce que les barbares qui nous attaquent croient que nous sommes faibles. » Nicolas Sarkozy ne se contente pas du diagnostic. La France doit être impitoyable, elle doit faire changer la peur de côté. Puis il prend délibérément le contre-pied des propos de François Hollande prononcés à son retour de Rio le week-end dernier. Le président dénonçait la surenchère à droite et la tentation autoritaire. La question, disait-il, c'est dans quel pays on veut vivre. Il précisait que l'élection présidentielle doit porter sur ce qu'on peut faire ensemble. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Nicolas Sarkozy s'inscrit en faux par rapport à ce discours. La France vulnérable, ce n'est pas la France. L'état de droit n'a rien à voir avec les tables de la loi de Moïse. Qu'y a-t-il de plus évolutif que les lois, alors que François Hollande estimait avoir pris déjà toutes les mesures nécessaires? Non, on ne peut pas se contenter de ce qui a été fait, répond Nicolas Sarkozy. Et il déroule quelques idées comme la modification du droit du sol ou l'interdiction d'expression communautaire, comme les menus de substitution dans les cantines scolaires. Bref, il se pose en homme d'action qui piaffe d'impatience avant d'en découdre s'il revient aux manettes. Il dessine, bien sûr, les contours de sa campagne présidentielle s'il passe le cap de la primaire. Nicolas Sarkozy, plus sage, assure-t-il, mais dont on sent qu'il se prépare comme un boxeur dans un coin du ring.
Ézéchiel Fernandez, cette révélation de nos confrères du Parisien ce matin, petit précis d'optimisation fiscale lu avec brio par la plateforme Airbnb, le site de location entre particuliers. Rien d'illégal, mais in fine, à peine 70 000 euros d'impôts acquittés à l'État français l'an dernier, les clients versant leur argent soit en Irlande, soit en Grande-Bretagne. La filiale française, elle ne s'occupe que de marketing et de promotion de la marque. Le temps de ce jeudi 11 août 2016, plutôt agréable, mais une bande nuageuse traverse le pays au fil des heures de la journée, des côtes bretonnes jusqu'aux Ardennes en passant par la région parisienne. Les températures maximales cet après-midi de 19 à 24 degrés au nord, 24 à 26 sur le sud-ouest, de 27 à 30 degrés en Méditerranée. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard. Merci à lui. Prochain journal, je vous retrouve à 18h.